au plaisir d'insolence.
Une émission de la rédaction de Canal Academy.
L'émission qui prend le temps de parler littérature.
On retrouve Elisabeth Antebi.
Elisabeth Antebi reçoit Claude Delarue, qui va nous parler de quelqu'un d'autre. C'est un peu une émission à tiroir aujourd'hui. Mais parlons d'abord d'un écrivain qui est à la fois très connu, inconnu, méconnu du grand public. C'est Claude Delarue. Bonjour Claude Delarue.
Bonjour.
Alors, quand je disais que vous êtes à la fois connu et inconnu, c'est assez stupéfiant parce que vous avez raflé un nombre de prix assez impressionnant. Vous avez commencé, je crois, par le prix de la nouvelle de l'Académie française pour Le Grand Homme, c'est ça ?
C'est pour Le Grand Homme, oui.
Oui. Ensuite, vous avez eu, alors là, je voudrais que vous m'expliquiez ce que c'est, le prix Schiller 2003, je crois, pour l'ensemble de votre œuvre.
Voilà, c'est ça. Alors, le prix Schiller, c'est un prix qui est à la fois allemand et suisse, et qui est donné, en général, par les deux pays, pour un auteur, qu'il soit de langue allemande ou qu'il soit de langue française. Il est évident que l'auteur qui reçoit le prix Schiller est de n'importe quelle nationalité. Quand il est suisse ou quand il est allemand, c'est encore mieux, parce que voilà.
Alors, abordons tout de suite les sujets qui fâchent. Vous êtes suisse, vous êtes un écrivain suisse.
Alors oui, ça me fâche. Non, non, ça ne me fâche pas du tout. Mais oui, je suis d'origine suisse et ça fait 35 ans que je vis à Paris.
Vous êtes né à Genève. Hein ?
Je suis né à Genève, je suis donc de langue maternelle française.
Oui, bon, mais alors est-ce que justement, d'abord pourquoi ça vous fâche ? À cause des coucous ?
Ah non, ça ne me fâche. Non, mais je dis ça ne me fâche pas du tout. Non, mais c'est toujours une histoire très compliquée parce qu'on ne sait pas où me mettre, étant donné que ça fait très longtemps que je vis ici. On me qualifie maintenant de franco-helvète. Ah oui, qu'est-ce que ça veut dire, franco-helvète ? On peut se le demander, c'est aussi complexe que la Mitteleuropa.
Justement, au fond, nous allons parler du côté... C'est peut-être parce que vous êtes aussi suisse que vous êtes si sensible. Remarquez, moi je suis aussi très sensible à la Mitteleuropa, mais enfin, j'ai des origines de la moitié viennoise. Donc, est-ce que c'est aussi pour ça que vous êtes si sensible à l'Europe centrale ? Et un écrivain dont nous allons parler tout à l'heure, mais qui rentre dans la zone d'Europe centrale.
Oui, alors je ne sais pas si c'est par le fait que je suis suisse que je suis sensible à l'Europe centrale. Bon, il y a une chose certaine, c'est que j'ai fait des études de musicologie à Vienne, et nous sommes donc en pleine Mitteleuropa. Parce que je crois qu'il faut là spécifier quelque chose, c'est il y a une grande différence entre Europe centrale et Mitteleuropa.
Ah.
Parce que Mitteleuropa est passé dans le langage, c'est de la lingua franca, c'est passé dans le langage français, on peut le trouver dans les dictionnaires français, Mitteleuropa, qui n'est pas tout à fait la même chose que Europe centrale. Europe centrale étant plutôt un terme, disons, de géopolitique, tandis que Mitteleuropa est un terme plutôt qui concerne plutôt la culture.
Alors, nous allons justement parler de cette culture, puisqu'il y a aussi l'influence de Freud dans toute cette Mitteleuropa. Il y a Vienne, mais il y a aussi Trieste. Et nous allons réserver un petit peu encore le suspense pour savoir de quel écrivain vous allez nous parler et pourquoi Trieste. Moi, je reviens sur vous, si j'ose m'exprimer ainsi, en disant que vous avez été pris du premier roman pour La Lagune en 1974. Vous étiez jeune, hein, disons-le
oui,
tout de suite. Vous n'êtes pas Kakoshima.
J'avais 27 ans.
Voilà,
oui.
Vous n'êtes pas Kakoshima. D'ailleurs, tout de suite, vous annoncez la couleur. Vous êtes un homme qui raconte des histoires et non pas qui fait de la littérature au sens robe grillée du mot. D'ailleurs, vous avez un très joli mot sur le nouveau roman. Vous dites que pendant que robe grillée écrivait les gommes, Faulkner écrivait Lumière d'août. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Je veux dire par là que il y avait d'un côté un homme qui faisait des essais sur la forme littéraire,
oui.
Purement sur la forme.
Qui était l'Académie française.
Et qui avait un système littéraire bien précis qu'il avait mis au point. Tandis que Faulkner, qui avait certainement mis au point lui aussi son propre système, n'était pas du tout dans l'obligation, par exemple, de supprimer le personnage, puisque c'était l'une des clés du nouveau roman, c'est que le personnage n'était plus valable, qu'il fallait, si possible, éviter de parler du personnage. Après la Seconde Guerre mondiale, après Auschwitz, il n'était plus question de parler du personnage. Faulkner, évidemment, était en dehors de tout ça. Donc il écrivait Lumière d'août, qui est un livre, je cite Lumière d'août particulièrement parce que c'est un livre qui est d'une extraordinaire densité et qui est absolument splendide et qui, évidemment, là, on va, puisque il est question d'un peu d'insolence, n'est-ce pas, donc on va dire que, n'est-ce pas, Rob Goyer, ben, ma foi, le pauvre perd son âme, mais il ne touche pas tellement terre avec Lumière d'août, même dans les meilleurs livres qu'il a écrits.
Il a touché l'immortalité, puisqu'il a été vague, il est passé par ici. Mais enfin, bon. Mais il n'a jamais porté l'épée ni l'habit, je crois. Donc, je reprends vos prix. Vous avez été alors aussi prix du roman européen, ce qui est important, qui a été donné à Francfort pour En attendant la guerre, qui est un livre que j'aime moi personnellement beaucoup. Dites un tout petit peu de quoi il s'agit et quels sont vos thèmes, parce que vos thèmes sont souvent des thèmes d'attente. De joie, je le dis tout de suite parce que c'est pas lamentable, quoi. C'est en même temps très ironique, très au deuxième degré. Et ce sont des fresques aussi, où par exemple se promène le rhinocéros de Dürer, qui est une gravure qui prend corps à Genève. Voilà, pour dire aux gens un petit peu.
C'est-à-dire qu'on peut effectivement basculer, c'est une chose que j'aime bien faire, c'est-à-dire basculer quasiment dans le fantastique, de temps en temps. Mais enfin, ça n'est pas une nécessité, ça n'est pas un principe érigé en système. S'il fallait parler de mes thèmes, c'est très difficile d'en parler, parce qu'en fait, il y a plusieurs thèmes. Et puis, il y a les thèmes, ma foi, les thèmes qu'on peut traiter dans le roman, c'est le thème de l'être humain, et de l'être humain en contact avec un milieu social, avec une certaine situation donnée dans sa vie privée. Et voilà, donc c'est tout à fait classique, hein, ça.
Oui, vous êtes quelqu'un d'ailleurs de classique qui tord un peu le cou au classicisme, à l'intérieur du classicisme, ce qui est assez intéressant. Et je vais dire quelques titres, parce que les titres représentent d'abord souvent les écrivains, parce qu'ils ont choisi leurs titres, et qu'il y a des titres qui décrivent un peu un paysage mental, disons. Il y a les collines d'argile, qui est un paysage-paysage. Vous m'interrompez quand vous avez quelque chose à préciser.
C'est juste.
La lagune, je ne prends pas tous les titres, bien entendu, parce que ça serait un peu... Le dragon dans la glace...
Oui.
Celui-là, je ne l'ai pas lu, alors
c'est un congrès de scientifiques, scientifiques et de philosophes qui se passe à la montagne, qui est divisé en quatre parties et qui traite de l'hypercomplexité du monde. Et en fait, on se rend compte d'une chose, c'est que l'hypercomplexité du monde est effectivement existante, mais l'hypercomplexité des individus qui participent de cette hypercomplexité est non moins présente, et que chaque individu est préoccupé par sa propre hypercomplexité.
Oui, alors ça c'est intéressant, parce que c'est toujours un peu des groupes isolés au fond. Alors ils sont soit dans une montagne, soit dans la lagune, soit sur un bateau, soit... Alors il y a aussi les îles, vous avez souvent les îles, dont le dernier qui est inspiré par Marlon Brando, qui s'appelle Le Bel Obèse.
Qui se passe sur une île,
qui se passe sur une île aussi. Donc vous êtes un homme d'île, enfin d'isolement, à la fois d'isolement peuplé, mais d'isolement, qui se confronte aux autres dans une surface très délimitée.
Oui, certainement. C'est-à-dire que je pense que la psychologie des personnages est fortement conditionnée par le milieu naturel dans lequel ils vivent. Et que, évidemment, j'utilise assez fréquemment la métaphore. Je sais qu'actuellement, ça n'est pas très à la mode d'utiliser la métaphore. On n'aime pas tellement ça.
Ah, bah alors, vous êtes un homme pas du tout à la mode, faut dire.
Mais,
faut dire ce qu'il y a. Vous n'êtes pas à la mode.
Attention, je ne suis pas à la mode, d'accord, mais je ne suis pas démodé non plus. Hein.
C'est pas ce que j'ai dit. Non, dans ma bouche, c'est un compliment. Vous ne dépendez pas des modes et vous n'êtes pas à la mode, ce qui n'est pas nécessairement garanti de talent et de succès, comme chacun sait.
Oui.
De succès, si, mais de talent, non. Si d'ailleurs, j'ai choisi de vous faire venir ici, vie, c'est aussi une insolence, c'est-à-dire que c'est aussi pour, dans une rentrée littéraire où il y a deux livres dont on parle qui sont de deux dames que je ne nommerai pas pour ne pas leur faire de publicité parce qu'elles seront oubliées quand on écoutera cette émission déjà.
Voilà une insolence.
Donc, dans une rentrée où il y a ces deux dames qui, dont les deux livres sont nombriliques et l'un plus mal écrit que l'autre, je me disais que j'aurais aimé inviter un véritable écrivain. Donc voilà la raison de votre présence. Donc croyez-moi, c'est, quand je dis que vous n'êtes pas à la mode, c'est plutôt un compliment.
Une qualité, très bien.
Une qualité.
D'accord.
Vous voudriez être à la mode, quand
non,
même.
D'ailleurs, même si je le voulais, je ne pourrais pas.
Alors, pourquoi pas? Qu'est-ce qui est à la mode?
Je ne pourrais pas, parce que... Oui, qu'est-ce qui est à la mode? Oui. Justement, ça, on ne sait pas. Alors ici, il y a une chose qui est à la mode en ce moment. C'est ce qu'on appelle l'autofiction. Mais l'autofiction, ma foi, on peut dire que Montaigne l'exerçait déjà. Hein, je me roule en moi-même, c'était aussi autofiction. Il racontait, il descendait en lui-même. Et le personnage dont nous allons parler, l'écrivain dont nous allons parler tout à l'heure, était aussi un des champions de ce genre de...
Ah oui, mais lui-même, il retrouvait le monde quand même.
Exactement, voilà. C'est-à-dire qu'il y avait une universalité, et il n'y avait pas ce côté qui apparaît souvent dans la littérature d'autofiction, c'est le côté domestique. C'est-à-dire le côté.
Pour ne pas dire
le
plus.
Le côté de l'existence.
Plus obsède encore.
Un peu, l'existence domestique, quoi, c'est vrai, qu'on trouve souvent.
Voire trash, comme on dit aujourd'hui. Alors, quelques autres titres quand même, parce que j'y tiens. La chute de l'ange, qui est un très beau livre. Les chambres du désert. La mosaïque, je ne sais pas si j'en ai parlé, mais c'est aussi un très beau livre. Et alors, celui pour lequel j'ai une tendresse spéciale et qui va nous amener à parler de notre choix, c'est La comtesse d'Almate et le principe de déplaisir. On retrouve un personnage que j'aime. Alors là, Plumitelle Europa que sa tumeur. C'est toute la décadence, tous les fantasmes, fantasmes sexuels quand même aussi. Hein. Il y a une histoire d'aquarium que je conseille au lecteur. Et fantasmes, tous les fantasmes au fond de l'Europe défunte, la pavane pour une Europe défunte, se retrouvent dans La comtesse d'Almate. Est-ce que vous seriez d'accord?
Oui, non, je suis tout à fait d'accord. Il y a une mise en parallèle avec donc le fameux personnage dont nous allons parler. On a l'impression qu'on n'en parlera jamais parce qu'à force de là.
Oui, mais j'aime bien.
Et ça, c'est le propre de la mythologie Europa, c'est-à-dire que c'est la difficulté de trouver une identité. Et la confusion d'identité qui était due à la conception même de la cacanie, de ce que Mouzil appelle la cacanie, qui en français ne veut pas dire grand-chose, parce que cacanie, c'est avec un C, tandis qu'en réalité, c'est avec un C, deux K. Hein, c'est
Königlich
et Kaiserlich. Königlich, c'est ça.
Oui.
Ce sont les deux cas.
Königlich,
c'est-à-dire
royal.
C'est l'empire bicéphale, c'est royal
et impérial.
C'est l'aigle à deux têtes. Royal et impérial.
Oui. Et
voilà, donc en français, ça ne veut plus dire grand-chose, cette cacanie, mais enfin, bon, c'est... Et c'est effectivement un empire, l'empire bicéphale est un empire qui s'est formé en, je crois, 1867 ou quelque chose comme ça, et qui n'a pas duré longtemps, puisqu'il s'est achevé à la fin de la Première Guerre. Et il était complètement artificiel. Il a été décidé entre les Hongrois et les Autrichiens. Et ce qui s'est produit à ce moment-là, c'est qu'il y a eu beaucoup de gens qui étaient très, très mécontents de ce partage de l'Empire, fait d'une certaine manière, et notamment les gens des Balkans, qui ont été très souvent laissés pour compte dans cette affaire. Mais bon, là, en l'occurrence, on parlait, je ne me souviens plus, on parlait de...
Pavane pour une Europe défunte.
C'est ça. Il y avait donc, là, à la fin de l'Empire austro-hongrois, une espèce de perte d'identité des gens. Les gens ne savaient plus où ils en étaient. Mais au lieu de susciter un affaiblissement, ça a suscité une espèce de vigueur intellectuelle extrêmement forte. Ben, on peut se rendre compte de ce qui s'est passé à cette époque-là aussi bien.
Et l'une des plus belles littératures finalement qui nous.
L'une des littératures les plus passionnantes.
Tout Vienne, enfin Schnitzler.
Ah oui, bien entendu, Vienne au crépuscule est un livre remarquable. Et puis enfin, il y a Musil, il y a
Et à Trieste, donc, votre héroïne lit quelqu'un que l'on connaît peu. Malheureusement, parce que Trieste est toute une histoire que nous allons raconter. Et quel est cet écrivain avant notre petite pause?
Bon.
Que lit-elle?
Alors, elle lit un livre qui s'appelle Senilità, en italien, c'est-à-dire sénilité.
Aucun éditeur ne prendra
voilà, c'est un risque. C'est justement ça. Je pense qu'actuellement, c'est un titre que, dont aucun éditeur ne voudrait peut-être. Parce que Sénilité, ça a un côté absolument négatif. Et en fait, la sénilité n'est pas seulement la sénilité du héros, bien que le héros de Sénilité soit un vieux garçon, amoureux d'une très belle jeune femme, mais c'est la sénilité d'une société tout entière, et qui est la cacanie, en fait.
Quel est le nom de l'auteur de Sénilité?
Eh bien, c'est évidemment Italo Svevo.
Très bien. Nous allons interrompre un moment Claude Delarue et nous allons recommencer tout à l'heure, après la pause, par un petit passage de Sénilité.
Canal Académie vous ouvre les portes de l'Académie des sciences. Les académiciens se prêtent au jeu du portrait dans l'émission En habit vert, répondent aux questions de société dans Éclairage et vous présentent leurs derniers ouvrages dans Au fil des pages. Retrouvez Yves Coppens, Étienne-Émile Beaulieu, Albert Fert, Georges Charpak, Axel Kahn, Nicole Ledouarin et bien d'autres encore. Des émissions en téléchargement gratuit sur canalacademie.com.
La comtesse d'Almate et le principe de déplaisir, petit extrait de Claude Delarue. De sa chevelure volumineuse, plus noire que le deuil, arrangée en chignon sur sa nuque dégagée, ô adorable nuque, s'échappaient quelques vrilles malicieuses. Et j'avais beau me dire intensément, mais ce n'est qu'une femelle humaine, mon vieux, rien qu'une femelle humaine, avec ses viscères qui ont déjà beaucoup servi, son sang qui circule dans ses veines depuis si longtemps qu'il s'ennuie sans doute d'irriguer toujours le même dédale, mon cœur battait jusque dans ma gorge. M'approchant davantage, un pas, deux pas, guère plus, car je craignais qu'elle n'entendît le boucan dans ma poitrine, je lus par-dessus son épaule le titre du livre en haut de page, « Sénilité », et constater, avec un sentiment mêlé, que ma vue n'avait pas baissé malgré l'âge, cette vue de lynx qui, pour mon malheur, voit parfois au-delà des apparences la terrible confusion du monde, son impitoyable hideur et sa stupéfiante beauté. Ainsi, la comtesse Imogène MacLean de Monfalcone, dite la Contessa, par moi surnommée Imo, soignait encore son vague à l'âme quadragénaire à la clinique des rives de Prangin et lisait pour la énième fois « Sénilité » d'Italo Svevo, titre défaitiste dont aucun auditeur ne voudrait plus aujourd'hui. Alors, Claude Delarue, le passage.
Bon, alors je lis un passage qui est en fait la fin de « Sénilité ». Seul dans la rue, une profonde tristesse l'envahit. Il sentait que cette caresse donnée par la compassion marquait vraiment la fin de son aventure. Elle concluait même toute une période de sa vie, mais cela, il l'ignorait. L'aventure terminée, il ne retrouvait plus son équilibre. Longtemps, il demeura insatisfait. L'amour et la douleur avaient traversé sa vie et, privé de ses éléments, il lui semblait avoir subi une amputation cruelle. À la fin, ce vide se combla. Il retrouva l'amour de sa tranquillité, et le soin qu'il prit lui-même lui ôta tout autre désir. Des années après, il admira cette époque de sa vie, la plus importante, la plus lumineuse. Il s'en enchanta. Il en vécut comme un vieillard du souvenir de sa jeunesse. Dans son esprit d'homme de lettres inoccupé, Angelina subit une singulière métamorphose. Elle conserva intacte sa beauté, mais acquit en surplus toutes les vertus d'Amélie, qui mourut en elle une seconde fois. Elle devint triste, inconsolablement inerte, et son œil limpide s'éclaira d'indulgence. Il l'adressa devant lui, comme sur un autel, personnification de la pensée et de la douleur. Et, si amour signifie admiration et désir, il l'aima toujours. Elle représentait tout ce qu'il avait à cette époque exceptionnelle, observé et conçu de plus noble. Cette figure devint même allégorique. Les yeux tendus vers l'horizon, elle contemplait un avenir d'où jaillissaient des lueurs rouges qui se reflétaient sur son visage rose, blanc et doré. Elle attendait. Cette image incarnait le songe qu'il avait fait un jour à côté d'Angelina et que la fille du peuple n'avait pas compris. Ce haut et magnifique symbole se ranimait parfois pour redevenir une femme, une amoureuse, mais malgré tout, une amoureuse triste et pensive. Oui, Angelina pense et pleure. Elle pense comme si on lui avait dévoilé le secret de l'univers et de sa propre existence. Elle pleure comme si, dans ce vaste monde, elle ne pouvait plus trouver un homme à séduire, plus même le dernier des coureurs de filles.
Eh bien, ça n'était pas pour faire sortir cette comtesse d'Almat de sa dépression.
Mais la comtesse d'Almat n'est pas vraiment dépressive.
Oui, oui. Non, elle est pas... Ce jour-là, enfin,
Elle est simplement dans un chaos intérieur qui la contraint à certaines... à accomplir certaines choses qui correspondent à notre monde, puisque maintenant, ça n'est plus tellement un monde qui repose sur l'intériorité, mais c'est un monde qui repose sur le capital et sur l'argent. Donc, elle est obligée, sa famille est enruinée. D'organiser ces petites choses personnelles pour essayer de sauver son,
donc des tourismes,
sauver sa tirelire.
Un tourisme un peu spécial.
Voilà, un tourisme un peu spécial. Je ne sais pas s'il faut raconter le livre, parce que c'est...
Non, mais fondé sur une histoire un peu...
Mais c'est fondé
terrible,
sur une histoire, c'est fondé sur une histoire authentique, oui, qui est absolument terrible et qu'il faut peut-être que je peux la mentionner, je ne sais
bien
pas.
Bien sûr.
C'était dans les années 80, j'étais tombé sur un article du Times et on avait démantelé un réseau touristique qui avait été créé par un lord et qui reconstituait les camps de concentration nazis. Et il y avait des touristes, c'était destiné au tourisme masochiste, qui véritablement allaient dans ces camps. Et ça rapportait beaucoup d'argent, parce que finalement, il y a beaucoup plus de masochistes qu'on ne pense.
Voilà, donc c'est un peu... Alors là, ne dévoilons pas la suite, parce que sinon, on raconterait tout le livre. Mais c'est assez étrange. Et toujours le rhinocéros de Dürer qui se balade au milieu de tout ça. Bon, alors pour revenir à Italo Svevo, de fait, après Senilita, je crois qu'il n'a plus rien écrit du tout. Il est resté pendant 20 ans sans rien écrire. D'ailleurs, attendez, Svevo s'appelait... D'abord, c'est l'homme de trois livres, ce qu'on oublie de dire aussi.
Oui,
c'est
un peu écrit, il a écrit un autre livre, n'est-ce pas ? Il a écrit des écrits intimes.
Oui.
Et il a écrit un livre qui s'appelle « Le bon vieux et la belle enfant », qui n'est absolument pas connu.
Oui.
Et il a écrit « Destin, le destin des souvenirs ». Donc il a écrit, mais il est vrai que ses grands romans, c'est « Une vie ».
Oui. En 1892, oui.
Voilà, Sénilité, oui, et La conscience de Zeno en 1923.
Et qui lui apporte la célébrité en France grâce à Valérie Larbaud, je crois.
Ouais, oui. Grâce à... c'était pas Valérie Larbaud.
Crémieux.
C'est Crémieux.
Les deux.
Crémieux. Et puis il y a eu surtout Joyce.
Alors voilà, donc avant que n'arrive Joyce dans l'histoire, parce que j'ai dit c'est une émission à tiroir, parce que de fait, Svevo parle de Joyce. Donc vous parlez de Svevo, mais Svevo parle de Joyce. Nous allons voir pourquoi. Mais Svevo, surtout, n'est pas Svevo, c'est-à-dire que ça veut dire l'italien de Swab.
Non, c'est ça, exactement.
Il s'appelle comment?
C'était un pseudonyme, Italo Svevo est un pseudonyme, c'est le pseudonyme d'Ettore Schmitz,
voilà,
qui était un juif de l'Empire austro-hongrois.
Oui.
Qui a fait ses études en
Bavière.
Qui
est né à Trieste, donc le fameux Trieste.
Qui est né à Trieste, qui était vraiment un Triestin, mais qui, chose curieuse, a toujours fait un complexe sur le plan de l'écriture, parce que, en tout cas dans La conscience de Zeno, il le souligne fréquemment, il parlait l'accent avec le dialecte toscan. Alors, évidemment, c'est une chose très curieuse. Il pensait qu'avec le dialecte toscan, il n'y a rien à faire, on ne pouvait pas s'exprimer correctement. Donc, là encore, il y avait un trouble de l'identité qui était frappant. Mais surtout, je crois qu'il faut mentionner pour Italo Svevo, c'est que c'est à peu près le premier qui s'est lancé dans l'introspection, dans l'auto-introspection profonde, que j'appellerais l'introspection douloureuse. Parce qu'évidemment, c'était toujours douloureux. On se souvient que la conscience de Zeno, c'est quelqu'un qui veut cesser de fumer, qui n'y arrive pas, qui considère qu'il est malade, que la nicotine est dans son sang, enfin qu'il est empoisonné, et qui en fait est absolument tourmenté par cette maladie dont il ne sait pas exactement d'où elle vient. Et tout le livre tourne là autour, et tourne autour de la psychanalyse, parce qu'il finit par se faire psychanalyser.
L'influence, n'oubliez pas, de Freud, qu'il avait découvert.
L'influence de Freud.
À l'époque, qui était moderne à l'époque, enfin,
qui était de la même époque que lui.
Et donc, c'est un roman très beau, d'ailleurs, un peu hallucinatoire.
C'est un super beau roman, un roman qui, formellement, n'est pas classique du tout, contrairement à Senilita, qui, lui, est beaucoup plus classique de forme. Et dans La conscience de Zeno, d'abord, il s'exprime à la première personne. Senilita, c'est à la troisième. Et il n'y a pas de chronologie bien établie. Il y a des carnets, il y a un mélange de différents types littéraires. Et donc, c'est un livre qui est déjà assez bouleversé, assez chaotique.
Alors, qui admirait La conscience de Zeno? L'ancien professeur, en particulier, de Svevo, qui s'appelait, donc, vous l'avez dit, James Joyce.
Ah, c'est James Joyce parce que...
parce qu'il était à Berlitz. Moi, je ne savais pas du tout qu'il était à Trieste.
Il enseignait, oui. Joyce... qui a écrit pas mal de choses à Trieste, d'ailleurs.
Mais oui, alors les gens de Dublin, moi j'ai découvert quand même, il faut le dire aux gens, que
écrit,
les gens de Dublin,
écrit
c'était écrit à Trieste écrit, en 1914. Oui, oui. Et même Ulysse a commencé là-bas, enfin. Donc,
ça a commencé là-bas, voilà. Et puis ensuite, bon, il y a des choses, il est parti pour Zurich, ensuite il y a des choses qui se sont faites à Zurich.
Oui.
Mais il avait comme élève Italo Svevo à la Berlitz School pour lui apprendre l'anglais, parce que il faut préciser que Italo Svevo était écrivain, mais il était surtout autre chose, c'était un homme d'affaires.
Ah bon ?
Oui, c'était un homme d'affaires, c'est-à-dire qu'il s'est marié et sa femme possédait une entreprise de peinture sous-marine.
Ah bon, c'est joli. Oui.
Donc il a repris ça et il est devenu le patron de cette. Et donc alors il devait à la fois écrire, il était absolument poussé à l'écriture, mais en même temps il devait respecter son engagement comme directeur de cette firme de peinture sous-marine.
Donc il a appris l'anglais, mais enfin quand même avec James Joyce.
Alors il a appris l'anglais.
Il a triché.
Il a appris l'allemand. Alors là, il y a le plurilinguisme aussi qui joue en l'important parce que Svevo parlait également le français. Mais à
comme
cette
tout
époque,
le monde à l'époque,
dans la
oui,
Mittelmeer Europa,
oui.
On parlait énormément de langues. Et il y a même des gens qui d'ailleurs appartiennent à un pays précis et qui ont écrit, les grands écrivains, qui ont écrit dans une autre langue. Que leur langue
oui,
maternelle.
Ça c'est une chose. Aujourd'hui, on parle beaucoup, je crois, que des journées du multilinguisme, etc., etc., où les gens annonnent à peine une ou deux langues et encore. On jonglait. On jonglait avec les mots. D'ailleurs, on traduisait les mots dans une langue et dans l'autre. On racontait les nuances. On se parlait entre écrivains sur les nuances d'un mot en anglais, en français, en allemand, hongrois,
oui.
On va savoir quoi. On jouait. Ça, c'était vraiment les jongleurs des langues. Enfin,
tout à
c'était,
fait.
Oui.
Alors, il faut peut-être faire quand même une petite réserve. On jouait effectivement avec les langues. Mais quand il s'agissait d'écrire, on choisissait une langue. Et on choisissait quoi? On choisissait forcément entre trois langues. C'était l'anglais, l'allemand et le français. Il est extrêmement rare, enfin, je vois absolument pas d'exemple, d'un Polonais, par exemple, qui va se mettre à écrire en serbo-croate.
Oui, c'est vrai.
Ou d'un Allemand de l'Est, donc qui va se mettre à écrire même en italien. C'est extrêmement rare.
Alors, il écrivait en italien quand même, notre Svevo.
Alors, Italo Svevo
oui.
écrivait en
toscan,
italien. Lui, ça n'est pas en toscan, oui.
Oui.
Lui, ça n'est pas un phénomène de. Non, il y a un autre personnage qui, alors, lui, est caractéristique sur le plan de la langue. C'est d'ailleurs aussi un coup de cœur, puisqu'il s'agit de coup de cœur, hein, au moment.
Bien sûr.
C'est Elias Canetti. Elias Canetti est né en Bulgarie.
Un autre juif, bien sûr.
Maternelle était le ladino, c'est-à-dire donc la langue des juifs séfarades espagnols. Par contre, il s'est mis à écrire en allemand. Et il a décidé d'écrire en allemand parce que c'est la langue qui lui convenait le mieux pour écrire. Donc il y avait quand même un choix. Mais c'était toujours, effectivement, les langues bien précises, l'anglais, l'allemand et le français.
Alors, nous allons faire une petite pause. Et juste après, nous reprendrons sur Trieste. Qu'est-ce que c'était ce Trieste? Parce que tout le monde connaît Vienne, bien sûr, avec tous les grands écrivains viennois de l'époque. Vous avez d'ailleurs parlé de Musil tout de suite. Vous avez parlé de Foote, tout ça, c'était du côté de Vienne. Bah, à Trieste, il s'en passait des choses. Parce qu'on va revenir aussi sur Joyce. Il y avait tout un milieu un peu différent de celui de Vienne. Ça, vous allez nous raconter.
Oui.
Mais qui a énormément compté pour toute la transmission de nos rêves européens, parce que c'est ça que nous parlons. Nous allons nous retrouver, Claude Delarue, dans quelques minutes.
La figure de Napoléon Bonaparte dans l'œuvre de Sacha Guitry. Jean Tullard, historien, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, vous donne les codes de représentation de ce personnage historique dans l'œuvre du cinéaste au cours d'une émission Carrefour des Arts. Téléchargez dès maintenant cette émission sur canalacademy.com.
Au plaisir d'insolence, nous reprenons avec Claude Delarue. Nous étions en train de parler d'Italo Svevo, de Trieste. Alors, Claude Delarue, oui, nous disions que Trieste n'était pas Vienne, si je puis dire, pour la Mittelmeer Europa. D'abord, où était Trieste? Parce qu'on ne voit pas bien comme ça.
Trieste était au bord de l'Adriatique.
Oui.
Et c'était, à l'époque, le grand port de l'Empire austro-hongrois.
Déjà, c'est un port, c'est
donc
pas comme
Vienne. C'est un port qui était véritablement important sur le plan économique. Et en même temps, c'était une plaque tournante intellectuelle, mais assez particulière parce que c'était une plaque tournante, disons, italo-germano-judéo-slave.
Oui.
Parce que, il y avait, comme nous sommes à proximité des Balkans, et il y avait la proximité de l'Italie, la proximité de l'Autriche, enfin, c'était autrichien, en fait. Et puis la proximité des Balkans, tout de suite, de la Serbie, de l'Istrie, de la Bucovine.
Oui, alors qu'à Vienne, il y avait plus d'influence allemande, finalement.
Alors qu'à Vienne, il y avait beaucoup plus d'influence allemande.
Oui, c'est ça.
Il y avait l'influence hongroise aussi, mais enfin, disons que c'était quand même d'abord l'influence allemande.
Oui, c'est la capitale de l'Empire, d'ailleurs.
Voilà.
Oui.
Donc, Trieste, c'était un grand port qui, économiquement, fonctionnait très bien, jusqu'au moment où, effectivement, ça a été, après la chute de l'Empire, Trieste, c'était plus rien du tout.
C'est-à-dire à la fin de la Première Guerre mondiale.
C'est tombé à la fin de la Première Guerre mondiale, ça a dégringolé. Et puis, alors, ensuite, ça a été à la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est devenu un protectorat de l'ONU.
Oui.
Donc, c'était une espèce de vie qui n'appartenait à rien du tout, c'est-à-dire à une chose abstraite qui est l'ONU.
Oui. Alors, Svevo, d'ailleurs, a survécu une dizaine d'années, je crois, à la mort de Trieste, puisque à la fin de l'Empire austro-hongrois. Je crois qu'il est mort en 28.
Il est mort en 28, quelque chose comme ça.
D'un accident de voiture, d'ailleurs.
D'un accident
comme
de voiture.
Comme quoi la modernité n'est pas bonne.
Un accident de voiture, oui, comme Camus.
Oui, c'est vrai.
Et alors, Trieste était quand même un endroit très particulier, parce que vous savez, quand Stendhal, qui a été nommé consul à Trieste, est arrivé là-bas, il a dit « Mais c'est Hambourg !»
Ah bon? Pourquoi Hambourg ?
C'était Hambourg sur le plan architectural.
Ah oui.
Parce que ce n'était pas du tout comme Vienne, où régnait le style Biedermeier. Régnait un style néoclassique, mais complètement dépouillé d'ornement. Il n'y avait pas d'ornementation. Ce n'était pas tellement une question de pauvreté, c'est que simplement les architectes qui avaient conçu Trieste avaient été sans doute marqués par quelque chose d'anséatique. Et il n'avait pas fait de. Et quand on voit Trieste actuellement encore, c'est ça qui crée l'atmosphère très bizarre de cette ville.
Mais parce qu'alors c'est désaffecté, c'est au fond un grenier culturel de l'Europe.
Oh, c'est désaffecté, sauf que ça grouille de monde et de scooters et tout.
Oui, oui, ben c'est ce que je veux dire, c'est désaffecté.
Donc
oui.
Mais moi, je dois dire que j'ai senti la première fois que je suis allé à Trieste, j'ai tout de suite senti l'étrangeté de cette atmosphère parce que j'ai vécu à Vienne et j'ai vécu à Hambourg également. Donc, je vois très bien ce qu'on veut dire par là, pourquoi ça a quelque chose d'anséatique. Parce que c'est vrai, ce néoclassicisme est un néoclassicisme sévère à Trieste.
Est-ce que vous avez eu des connivences avec Trieste ?
J'avais des amis là-bas, oui.
Des
connivences culturelles. J'avais justement eu d'Alos Vevo. Et puis surtout, il y a un autre très grand écrivain qui est Umberto Saba. Umberto Saba, alors c'est vraiment un Triestin. Il possédait d'ailleurs une librairie là-bas à Trieste, librairie de livres anciens. Et c'est un des plus grands poètes italiens.
Vers quelle époque ?
C'était exactement en même temps qu'Italo Svevo. C'était vraiment le début du XXe siècle.
Et vous voyez comment on connaît mal les choses. Et au fond, même l'histoire de Joyce, je finis l'histoire de Joyce en tous les cas, sur Trieste, moi je ne savais absolument pas, donc je vais le raconter aux gens de mots. Vous devez le savoir, bien sûr. Mais il semble que Joyce, qui était encore jeune, qui débarquait de Dublin avec sa Nora, est devenue donc professeur d'anglais, ça on l'a dit. Et puis, j'ai vu qu'il a publié à Trieste, musique de chambre, bon, ça, d'accord, mais Jean de Dublin en 1914, qui était quand même très connu, et Dédalus porte l'indication Dublin 1904, Trieste 1914, c'est-à-dire qu'il l'a fini à Trieste.
C'est ça.
Donc c'est vraiment très intéressant. Il commence Ulysse aussi. Donc tous les chemin d'Ulysse. Enfin, c'est extraordinaire d'ailleurs d'avoir Ulysse à Trieste.
Oui, absolument.
Il y a un symbole au fond. Alors, si je raconte ça, c'est que au fond, dans toute votre littérature, parce que pourquoi vous parlez de Svevo aussi et de Trieste, c'est parce que il me semble, alors là, c'est peut-être une idée un peu sottise, mais on interviewe toujours les gens, les auteurs sur eux-mêmes. sur leurs livres, comme s'ils étaient coupés, ils étaient nés un jour. D'ailleurs, on dit toujours qu'un tel est né à Genève en août 1900, je ne sais plus combien pour vous, 44 je crois, et qu'il est mort, ce que je n'ai pas le cas, alléluia, mais à telle date, et à tel lieu. Comme si ça résumait un être, alors qu'il m'a toujours semblé qu'un écrivain ne mourrait pas et ne naissait pas et ne mourrait pas, mais continuait quelque chose. Alors, est-ce que vous avez le sentiment qu'en effet, bien sûr, vous êtes original et vous avez publié vos livres, mais que vous êtes dans un courant spirituel, un héritier d'un patrimoine spirituel ou d'un patrimoine, d'une famille spirituelle?
Alors, ça c'est une bonne question, mais qui est très complexe. Parce que je ne me sens pas particulièrement suisse, c'est-à-dire que je ne suis pas calviniste, par exemple, donc je n'écris pas du tout, je ne fais pas là aussi ce qu'on appelle l'introspection protestante, qui existe fortement en Suisse romande.
Oh, il y a des écrivains suisses comme, comment s'appelle-t-il, l'écrivain du poisson, du poisson scorpion.
Bouvier, Nicolas Bouvier, mais c'est un écrivain du voyage.
Voilà,
ça c'est différent.
Voilà.
Et puis il y a Blessandrard.
Oui, c'est ça, quand même. Il y a des Suisses.
Non, il y a des exemples. Par exemple, moi j'ai vécu en Suisse infiniment peu de temps par rapport à l'âge que j'ai. C'est-à-dire que j'ai vécu la plupart de mon temps, de ma vie à l'étranger. Et donc ça, il est évident que mes racines helvétiques, qui existent peut-être, je ne les sens pas comme si j'avais la goutte, par exemple.
Non, bien sûr, mais vous êtes inspiré par des écrivains quand même plus d'Europe.
Et alors voilà, c'est-à-dire que ma culture, qui est une culture assez curieuse, j'ai commencé effectivement à connaître mieux, davantage, la culture germanique et Mitteleuropa, que la culture française, par exemple. La culture française, c'était une culture scolaire. Tandis que ma culture personnelle, celle que je me faisais en tant qu'autodidacte, elle venait plutôt d'Europe centrale. Elle était autrichienne, elle était allemande également. Mais elle venait plutôt de cette région-là. Donc, je peux pas dire que je me sente absolument suisse et français non plus.
Donc,
c'est une chose. Oui. Alors, il y a les auteurs français que j'admire éperdument, que je trouve absolument extraordinaires. J'ai des affinités profondes avec certains d'entre eux, mais j'ai davantage d'affinités avec la Mitteleuropa.
Alors justement, cette introspection douloureuse qui est celle de tous les gens de Mitteleuropa, finalement, ils ont tous été à se trifouiller les entrailles d'une manière plus ou moins belle. En trifouillant les entrailles, d'ailleurs aussi, de l'Empire austro-hongrois qui mourait avec eux. Hein, parce que tout ça était dans le même mouvement, si on peut dire. Donc, est-ce que vous avez aussi cette introspection douloureuse
Je pense qu'elle est plus ou moins à la base de mon travail. Et ça, c'est indéniable. Bon, je l'ai peut-être un peu transcendé. C'est-à-dire que je ne la raconte pas de façon absolument réaliste, mais plutôt métaphorique, hein, comme sans vouloir me comparer, faire de comparaison quelconque, mais comme Kafka l'a fait. Et cette conscience douloureuse s'exprime effectivement à travers, comme vous le disiez, des histoires que je raconte, qui ont un aspect absolument réaliste, mais qui sont en réalité métaphoriques.
Bon, eh bien écoutez, Claude Delarue, nous allons relire tout ce que vous nous avez raconté, parce qu'il y a la moitié ou les trois quarts que nous ne connaissions pas. Et surtout, je suis très heureuse de vous avoir reçu parce que c'est un courant qui m'est cher et dont on parle peu en France, que ce courant Mitteleuropa qui a tant inspiré tout le monde, tous les grands écrivains, y compris français, bien entendu.
On en parle encore un peu quand même, parce que Paul Celan fait partie de ça.
C'est vrai.
Joseph Roth fait partie de ça.
Bien sûr.
Bon, il y a un personnage italien qui vit encore, qui est Claude Magris, qui est aussi un très grand écrivain, alors qui est un spécialiste de Trieste. Alors
c'est
ça,
vrai.
Je conseille vraiment de lire Claude Magris. Oui, c'est un...
C'est
à la fois un excellent écrivain qui écrit sur Trieste d'une façon absolument étonnante.
Magnifique, oui, absolument magnifique. Donc voilà, si on veut connaître les vraies racines de l'Europe, la vraie âme de l'Europe, puisqu'on parle tellement de l'Europe sous l'angle de l'euro, eh bien allez donc voir ce que c'est que l'Europe du côté de Trieste. Merci Claude Delarue.
Merci.
Au plaisir d'insolence, l'émission qui prend le temps de parler littérature, avec aujourd'hui Claude Delarue, qui parlait entre autres choses, de Trieste et d'Italo Svevo, qui lui-même a fait une conférence sur James Joyce, qui lui-même adorait Svevo et qui eût aimé Claude Delarue. Au revoir.